Ouvrons nos Bibles au livre de Matthieu pour commencer. Verset 28, chapitre 28. Verset 15. Et ils prirent l'argent et firent ce qui leur avait été demandé, et cette histoire s'est largement répandue parmi les Juifs et l'Est encore aujourd'hui. Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, vers la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais certains doutaient. Je vais parler du Saint-Esprit. Je vais parler du jour de la Pentecôte. Je n'utilise généralement pas de notes, mais je vais lire beaucoup aujourd'hui, en suivant mes notes très attentivement. Je veux être très clair sur les choses que je dis. Maintenant, vous vous demandez peut-être en allant à la Grande Commission, pourquoi je commencerai au verset 15 et pourquoi je terminerai au verset 17, parce que je veux parler des disciples et d'une transformation qui s'est produite dans leur vie. Tout d'abord, je veux juste jeter un coup d'œil un instant sur les disciples avant la résurrection. C'est pendant les 3 années du ministère de Jésus. Ils étaient souvent réprimandés pour leur dureté de cœur et leur incrédulité. Jésus les a qualifiés d'hommes de peu de foi dans Matthieu 16.8. Ils se sont disputés pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand dans Marc 9.33. Dans leur pharisaïsme et leurs préjugés, ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains dans Luc 9.54. Un jour, Jésus a dit qu'ils étaient des pierres d'achoppement pour lui parce qu'ils ne pensaient pas à l'intérêt de Dieu mais à celui de l'homme dans Matthieu 16.23. Lors de la crucifixion, ces hommes abandonnèrent Jésus et Pierre le renia même devant une petite servante. Il est important de se rappeler qu'en tant que servante, il a renié le Christ devant une servante. Et finalement, dans l'ensemble, ce n'étaient pas de grands hommes de valeur, de vertu ou de perspicacité, mais dans les mots mêmes de Jésus, c'étaient des hommes insensés et lents de cœur à croire en tout ce que les prophètes avaient dit. Ce sont ces hommes qui ont été appelés par Jésus-Christ pour changer le monde. Examinons-les maintenant juste un instant après la résurrection à partir de ce passage. Avant cela, regardons le verset 15, qui parle des soldats qui ont rendu un faux témoignage concernant la résurrection du Christ. Il est dit, « Et ils prirent l'argent et firent ce qui leur avait été demandé. » Et cette histoire se répandit largement parmi les Juifs et l'Est encore aujourd'hui. Et puis vous voyez 16, « Mais les 11 se sont rendus en Galilée. » Nous voyons ici une grande division qui perdure encore aujourd'hui. Vous voyez un groupe d'hommes qui ne cherchent qu'à discréditer le témoignage de l'Évangile et de la résurrection de Jésus-Christ. En fait, nous voyons tout un système mondial qui, à son insu, est impliqué dans une grande conspiration satanique visant à restreindre et à réprimer l'Évangile. Et c'est contre tout ce système mondial qui s'oppose à l'Évangile que 11 des hommes, 11 hommes comme ceux que je viens de décrire, sont appelés maintenant à sortir dans ce monde comme des brebis au milieu des loups et à rendre témoignage au Christ. Eh bien, ils ont vu Christ. Au moment où nous arrivons au verset 16, ces hommes ont vu Christ. Ils ont vu le Christ ressuscité. Mais que trouvons-nous dans ce passage? Nous trouvons un mélange de réalité de la résurrection, d'adoration, de révérence et d'incrédulité. Tout d'abord, je veux que vous regardiez le verset 16. Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée. Nous voyons l'obéissance. Le Maître leur a ordonné, le Seigneur ressuscité leur a ordonné d'aller en Galilée, et c'est ce qu'ils ont fait. Nous voyons aussi la révérence, notre adoration. Lorsqu'il le revoit, il l'adore. Nous voyons donc l'obéissance, nous voyons l'adoration, tout semble bien. Mais alors un autre mot est utilisé ici. Il est dit au verset 17, mais certains doutaient. Le mot doute vient ici du mot grec distazo, qui signifie une double position. Ils ne savaient pas sur quel pied se tenir, un pied de croyance que celui-ci est le Christ ressuscité. Un pied d'incrédulité. C'est le même mot utilisé pour désigner Pierre lorsqu'il est appelé à marcher sur la mer. Et il est rempli de doutes et commence à sombrer. Ainsi, même après la résurrection de Jésus-Christ. Et il le voit visiblement. On voit que cela a un impact sur eux. Mais nous voyons quelque chose de très, très important. Même la réalité de la résurrection de Jésus-Christ ne suffit pas à transformer ces hommes. Ils sont encore dubitatifs. Ils sont toujours incertains. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de dire? Il faut une Pentecôte. Il faut une Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, nous ne voyons plus aucune hésitation parmi ces hommes. Nous ne voyons rien. Voici Pierre. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Il renie Christ, le Messie, devant une servante, une petite fille. Maintenant, avant de continuer. Avez-vous fait cela? Vous avez été appelé à témoigner dans une station-service, à remettre une trace à quelqu'un. Juste un individu. et tu n'as pas assez de courage, tu sors de là honteux. Pouvez-vous vous identifier à Peter? Eh bien, continuons. Après la Pentecôte, on ne voit plus ce type d'hésitation. Que voit-on? Nous voyons exactement ce que Jésus a promis. Et voici ce qu'il a promis. Luc 24, 49. Et voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus du pouvoir. Acte 1, 18. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins tant à Jérusalem qu'en Judée et Samarie, jusque dans les régions les plus reculées du monde. Nous voyons donc ici Pierre renier Jésus-Christ devant une servante. Après la Pentecôte, nous voyons Pierre se tenant devant la nation juive entière, tous ses dirigeants, les mêmes hommes qui ont crucifié le Seigneur et proclament hardiment le Christ. Maintenant, mon cher ami, ce serait peut-être bien si nous nous éloignions tout de suite et que vous essayiez simplement de comprendre cela. C'est cataclysmique. C'est inexplicable. C'est phénoménal ce qui est arrivé à cet homme. Il est devenu un homme différent. Même la façon dont il traite les Écritures. Vous remarquez? Même lorsque Jésus était avec lui, il traitait les Écritures d'une manière trébuchante, sur le mont de la Transfiguration. Il a totalement mal interprété tout ce qui se passait là-bas. Mais quand vous le voyez après la Pentecôte, vous voyez un homme différent, une audace différente, une connaissance différente. Vous voyez un homme différent. Vous voyez quelque chose de plus qu'un homme. Maintenant, que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit est venu sur les disciples et ils ont été revêtus de puissance. Maintenant, le mot habillé est traduit du mot grec en duo, signifiant inciter quelqu'un à être vêtu, à être habillé. Nous parlons maintenant. Je ne veux pas que vous regardiez cela de manière figurative ou poétique et que vous en retiriez le sens. Ils étaient littéralement revêtus du pouvoir. Ils étaient vêtus de puissance. De même qu'un roi pouvait se parer de robes royales, de même qu'un soldat pouvait se parer de vêtements de bataille, d'armes de bataille, ces hommes étaient vêtus de puissance. Ils y étaient disposés. Ils en étaient habillés. Maintenant, je veux lire quelque chose. Voici le débat. Je sais qu'il y a un grand débat, beaucoup de débats, concernant le sujet du baptême ou de l'effusion du Saint-Esprit. Je ne vais pas entrer dans toutes les nuances de ce débat, mais j'ai une question à vous poser. J'ai juste une question pour vous. Maintenant, ne négligez pas cette question. Demandez-vous simplement comment cela s'applique à vous? Décririez-vous votre vie, décririez-vous votre ministère comme étant doté de pouvoir, revêtu de pouvoir, revêtu de pouvoir? Décririez-vous votre vie de cette façon? Et si vous disiez non, alors je vous poserai la question, alors quelle est la différence entre eux et nous? Pouvez-vous dire avec l'apôtre Paul que mon message et ma prédication n'étaient pas des paroles persuasives de sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance? Maintenant, modifions cela un peu pour que cela s'applique à chaque croyant. Que ma vie ne consistait pas seulement en paroles persuasives de sagesse ou de connaissance, mais que ma vie elle-même est une démonstration de la personne de l'esprit. Et le pouvoir. N'essayez pas d'expliquer cela. Posez-vous simplement cette question. Je veux dire, sois honnête. Maintenant, qu'est-ce que cela nous apprend, tout cela? Je veux relire. La résurrection fut une grande justification ou démonstration des prétentions du Christ. Pourtant, même ce grand événement ne pouvait pas produire les résultats escomptés dans le cœur des apôtres sans l'œuvre surnaturelle de l'Esprit. La plus grande connaissance, et le plus haut degré de certitude concernant la foi chrétienne ne suffisent pas pour propulser un effort missionnaire universel. Ce n'est pas suffisant. Les hommes les plus intelligents ne suffisent pas. Comme les disciples du premier siècle, n'avons-nous pas besoin de plus en plus d'infusions ou de pouvoir du Saint-Esprit? Maintenant, je tiens à préciser quelque chose de très clair, cela ne s'applique pas uniquement aux ministres, cela ne s'applique pas uniquement aux hommes. Après avoir observé les efforts d'enseignement à domicile dans ma propre maison et observé le fardeau et la pression que cela impose à ma femme, ainsi que la vertu que cela lui enlève, je sais que le plus grand besoin de ma femme est d'être revêtue de pouvoir, d'être revêtue de puissance, pour être remplie de la puissance du Saint-Esprit. Nous n'aimons pas parler de cette façon parce que nous avons peur. Parce que la grande majorité de toutes les conversations que nous entendons sur le Saint-Esprit, en particulier dans les médias, sont des hérésies. Mais vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans non seulement la puissance de conversion du Saint-Esprit, mais aussi la puissance continue, dotant et autorisant du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Et c'est quelque chose que nous avons évité à notre propre détriment, et à cause de cela, nous voyons des hommes de 235 livres, 40 ans, renier Christ avant qu'une station-service ne s'arrête. Nous avons besoin de pouvoir. Maintenant, je veux parler de quelque chose. Il faut avant tout éviter d'être réactionnaire. Nous ne pouvons pas construire notre théologie en réagissant contre les hérésies de notre époque. Si nous le faisons, nous aurons commis certaines des mêmes erreurs exégétiques que ceux contre lesquels nous réagissons. Par exemple, si vous consultez le livre d'Actes 2 et que vous étudiez Actes 2 uniquement pour pouvoir montrer aux gens ce qu'ils n'enseignent pas. Que faites-vous? Si vous allez au chapitre 2 des Actes juste pour dire, eh bien, cela ne veut pas dire ce qu'il dit et cela ne veut pas dire ce qu'il dit. Ouais, mais la question est, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Deuxièmement, nous ne devrions pas laisser les hérétiques voler notre héritage. La vie et la puissance du Saint-Esprit, c'est l'héritage de chaque chrétien. Et nous ne devrions pas permettre qu'un groupe d'évangélistes hérétiques de la télévision et d'autres qui ne comprennent pas cette doctrine nous fasse fuir le même chose qui est l'un de nos plus grands héritages. Et c'est la vie et la puissance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Écoutez simplement certains de ces passages. Écoutez. Joël 2, 28 et 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute l'humanité et vos fils et filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs, hommes et femmes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. C'est une promesse de la nouvelle alliance. Mais au lieu d'écouter, de savourer et d'attendre, au moment où vous m'avez entendu lire cela, vous essayez de comprendre. Comment cela ne veut pas dire ce que la plupart des gens disent? Vous avez peur que je parle de prophétie, de vision et de toutes sortes de choses, et à cause de cela, vous ne regardez pas vraiment le texte pour voir ce qu'il dit. Matthieu 3.11, quant à moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne d'ôter ses sandales. Il baptisera vous avec le Saint-Esprit et avec le feu. Avez-vous cherché à comprendre comment cela est une réalité dans votre vie? Ou comment cela devrait être une réalité? Actes 1, 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, ce sont des promesses. Promesses d'une nouvelle alliance pour chaque croyant. Chaque croyant en Jésus-Christ. Maintenant, je veux examiner quelques vérités essentielles glanées dans ces passages. Maintenant, je veux que nous passions au chapitre 2 des Actes. Dans le chapitre 2 des Actes, bien sûr, à partir du verset 14, que s'est-il passé? Le jour de la Pentecôte est arrivé, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, les disciples, dans une magnifique expression de la puissance de Dieu, ils parlent en langue. Je crois qu'ils parlaient en langue, de vraies langues, des langues phonétiques que les gens pouvaient comprendre, et c'était ça le côté miraculeux. Et puis certains les accusaient d'être ivres. Maintenant, nous ne devrions pas nous promener avec une telle confusion, un tel mystère et une telle émotion dans nos vies que quelqu'un nous accuserait d'être ivres. Mais je dirais ceci, je préférerais être accusé d'être ivre du Saint-Esprit plutôt que de mourir sans le Saint-Esprit. Au verset 14, Pierre se lève et il donne une explication, une défense de ce qui vient de se passer. Verset 15, « Car ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été annoncé par l'intermédiaire du prophète Joël, et ce sera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute l'humanité, et que vos fils et vos filles prophétiseront, et que vos jeunes gens prophétiseront. Ayez des visions, et vos vieillards auront des rêves. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. » Maintenant, continuez, nous pourrions en lire davantage, mais le temps est très limité ici aujourd'hui. Je veux regarder quelques vérités essentielles de ce que nous voyons ici. Tout d'abord, en ce qui concerne la Pentecôte, ce fut un événement unique dans l'histoire de l'Église. Il est indéniable qu'il y a certains aspects de la Pentecôte qui sont uniques. Même ceux qui prétendent aujourd'hui parler en langue et avoir des rêves, des visions et tout, je rencontre rarement une personne qui parle de langue de feu sur sa tête. Parce que c'est en fait quelque chose qui peut être justifié. Cela peut être vu ou pas vu. Il y avait certains aspects qui étaient uniques. Maintenant, regardons-les. Tout d'abord, c'était unique en tant qu'accomplissement direct de l'Écriture dans Joël 2, 28 et 29. Pierre est, bien sûr, citant Joël, c'était unique en ce sens que c'était le moment initial ou inaugural au cours duquel l'Esprit de Dieu a été déversé sur l'Église. Vous ne pouvez avoir qu'une seule inauguration. C'était le début et cela le rend unique. En outre, cela s'est accompagné de circonstances uniques. Des langues de feu, parlant en langue, qui ne sont plus enregistrées dans Actes 4 lorsque l'Esprit est déversé. Il y avait donc des choses uniques. Maintenant, je ne suis pas ici pour discuter des langues ou des visions, ou pour ou contre, ou cesser ou ne pas cesser. Je veux juste souligner que quiconque, tout le monde doit reconnaître qu'il y avait certains aspects du jour de la Pentecôte qui étaient uniques. C'était un événement unique dans l'histoire. Une autre chose que nous devons reconnaître à propos du jour de la Pentecôte, maintenant écoutez très attentivement, car elle se rapporte au langage que je viens d'utiliser. Cela a marqué, la Pentecôte a marqué le début d'une œuvre extraordinaire de l'Esprit qui devait durer tout au long de l'ère de l'Église. À travers tout cela. Maintenant, le déversement de l'Esprit à la Pentecôte a marqué le début de la nouvelle ère du Messie et de la nouvelle ère de l'Esprit. C'était le début, l'initiation. Il est dit que les derniers jours représentent ici cette période entre la mort, la résurrection et l'ascension de Christ et sa seconde venue. Vous voyez ici dans Pierre, au verset 16, « Mais voici ce qui a été annoncé par le prophète Joël, et cela arrivera dans les derniers jours. » Les derniers jours commencèrent avec la venue du Messie, avec sa mort, avec sa résurrection, et son ascension à la droite du Père. Nous sommes dans les derniers jours depuis 2000 ans. Maintenant, cela a marqué le début de la nouvelle ère du Messie et de l'Esprit. Mais écoutez mon langage. Cela marquait le début d'une ère nouvelle, et non le début et la fin d'un événement singulier. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Beaucoup de gens disent, eh bien, la Pentecôte est unique. Elle a marqué l'effusion de l'Esprit. C'est une chose unique. Oui, il y a beaucoup de choses uniques à ce sujet, mais ce que vous devez réaliser, c'est que cet accomplissement, cette promesse en Joël a été inaugurée à ce moment-là, mais elle n'a pas été inaugurée et complètement réalisée pour qu'elle ne se reproduise plus jamais. Cela ne veut pas dire que l'Esprit est venu, c'est accompli, c'est fait, maintenant vous allez suivre un chemin différent sans la puissance du Saint-Esprit après l'âge apostolique. Ce n'est pas ce qu'elle dit. Il est faux de penser que la prophétie de Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte, ou même au premier siècle de l'Église, ou qu'elle s'est terminée avec les apôtres. Penser cela, c'est redéfinir les derniers jours. Joël a dit que dans les derniers jours, Dieu répandrait son esprit. Les derniers jours ont commencé avec l'ascension du Christ et se termineront avec la venue du Christ. Ainsi, cette prophétie de Joël, même si elle s'est accomplie dans le livre des Actes 2, devrait continuer à s'accomplir tout au long de l'histoire de l'Église. Elle s'applique toujours à nous aujourd'hui. De plus, il est faux de penser que la promesse concerne uniquement l'ère apostolique. Ce qui est étonnant à propos de Joël, ce n'est pas que l'Esprit soit répandu sur les dirigeants ou sur les apôtres, mais qu'il soit répandu sur les plus petits parmi le peuple de Dieu tout au long de l'ère de l'Église. Je suppose que ma question est la suivante. Quel est le rapport entre cette prophétie de Joël et l'Église d'aujourd'hui? Chaque fois que j'entends des gens parler de la prophétie de Joël, ils en parlent dans le contexte du chapitre 2 des Actes comme d'un événement initial qui n'a jamais eu lieu. Se reproduit. Mais Joël lui-même dit, ou Dieu à travers Joël, que cette promesse s'adresse à chaque croyant tout au long de l'ère de l'Église. Maintenant, regardons certaines choses. Si l'effusion de l'Esprit doit marquer l'ère entière de l'Église, alors les résultats de cette effusion devraient également marquer l'ère entière de l'Église. Maintenant, je veux aller au centre de ce que j'essaie de dire, et certains d'entre vous qui ont un air très inquiet, j'espère vous donner la paix. Quand nous regardons la prophétie dans Joël et la répétition de cette prophétie dans le livre des Actes, je pense que nous regardons la mauvaise chose. Nous avons certainement une mauvaise vision des choses. Or, qu'est-ce qui nous fait peur dans ce texte? Cela nous fait peur qu'il parle en langue. Cela nous fait peur. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait peur dans ce texte? Cela nous fait peur qu'il dise, « Votre fille prophétisera et vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards feront des rêves. Que dans ces derniers jours je répandrai mon esprit et qu'ils prophétiseront. » C'est ce qui nous fait peur. Parce qu'on se dit, « Eh bien, on a vu des gens qui prétendent cela. Ils prophétisent tous. » Sortes de choses et elles sont contraires à l'Écriture. Il parle de rêves et de visions, mais il semble mépriser la parole même écrite de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? C'est notre problème. Nous nous concentrons sur cela, nous nous concentrons sur cela. Maintenant, je veux lire certaines choses pour être le plus clair possible. Qu'est-ce que cela signifie? Quand nous lisons ce passage de Joël, cela signifie-t-il que les rêves, les visions et les langues devraient être la norme dans notre expérience chrétienne? Absolument pas. Ce n'est pas ce que cela signifie. Nous lisons les épîtres, nous regardons même dans le livre des Actes, nous voyons que ces choses ne sont pas la norme. L'erreur est la suivante, l'erreur, je crois, Que font la plupart des croyants sincères concernant cette question et qu'ils fixent leur attention sur un aspect infime et non essentiel d'une promesse ou d'une réalité plus grande. Ils se concentrent sur un moyen particulier de communiquer le don plutôt que sur le don lui-même. Quand Joël a prophétisé et a vu cette nouvelle alliance promettre que cela se produirait dans le futur. Voici la question. Joël se réjouit-il du fait que le peuple de Dieu aura des rêves, aura des visions et parlera en langue? Non. Ce n'est pas ce qui a enthousiasmé Joël. Joël était-il ravi qu'un jour le peuple de Dieu puisse expérimenter un phénomène surnaturel? Non. Cette prophétie de Joël est l'une des nombreuses promesses de la Nouvelle Alliance qui anticipe des choses très similaires. Maintenant, je vais rassembler tout cela dans un instant. Vous regardez ce passage et vous le lisez. Et qu'est-ce qui vous frappe? Faites des rêves, voyez des visions, des langues, toutes ces choses qui se passent. Ce n'est pas là l'essentiel ni même l'important de cette promesse. Et ce n'est pas quelque chose qui devrait perdurer dans la vie de chaque croyant. Ce dont parle Joël est la même chose dont parle Jérémie et la même chose dont parle Ézéchiel. Il dit simplement ceci, « Il viendra un temps après le Messie où l'Esprit des vivants Dieu sera répandu sur le peuple de Dieu, sur tout le peuple de Dieu. Et ces personnes auront une connaissance surnaturelle et intime de Dieu. Et ce peuple pourra vivre dans une puissance surnaturelle. » L'idée des visions et des prophéties n'est que la façon de parler de Joël, selon laquelle lorsque le Messie viendra, l'Église sera marquée par une connaissance intime et vraie de Dieu, une réalité de cette connaissance et une grande puissance pour vivre cette connaissance. Nous regardons toujours ici ces moyens phénoménaux qui ne sont pas la base de la promesse. Et cela nous fait oublier ce que dit réellement la promesse. La promesse pour l'âge de l'Église n'est pas celle des langues, ce n'est pas la prophétie, ni celle des visions. La promesse du livre de Joël pour tout l'âge de l'Église est que l'Esprit de Dieu serait si intérieur et si disponible, sa personne et sa puissance, à chaque enfant de Dieu, que chaque enfant de Dieu connaîtrait Dieu d'une manière extraordinaire. Manière et être capable de vivre pour Dieu d'une manière extraordinaire. C'est ce que cela enseigne. Maintenant, ce que j'aimerais faire si je savais comment faire ces choses avec rétroprojecteur que tout le monde fait maintenant, PowerPoint ou peu importe comment ils les appellent, ce que j'aimerais faire, c'est prendre certaines des prophéties de l'Ancien Testament sur les promesses de la Nouvelle Alliance et expliquer à vous comment Joël s'intègre parfaitement parmi les autres. Écoutez, passons juste un instant, juste à quelques-uns d'entre eux. Eh bien, passons à l'un d'eux parce que nous disposons de très peu de temps. Tenez votre place dans les actes et allez ensuite vers Jérémie. 31, verset 33. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Il parle des jours du Messie, de la nouvelle alliance, déclare le Seigneur. Maintenant, que va-t-il faire? Je mettrai en eux mes lois, et je les écrirai sur leur cœur. Il dit que la loi ne sera plus seulement ces tables de pierre, complètement extérieures aux gens, mais que, de manière surnaturelle, par la puissance de l'Esprit, j'écrirai ces lois dans leur cœur. Je intérioriserai la vérité. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, en disant, connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand d'entre eux. Alors que dit-il? Il y a un moment où va venir quand le Messie viendra, l'Esprit de Dieu va se répandre sur le peuple. J'intérioriserai ma loi dans leur cœur. Je la ferai partie d'eux. J'écrirai cela sur eux. Ils me connaîtront d'une manière surnaturelle. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils me comprendront. Ils sortiront. Ils ne seront pas comme Israël rebelle. Ils vivront pour moi. Ils marcheront avec moi. Alors revenons à Acte 2. Et ce sera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit dans toute l'humanité. Maintenant il continue, il dit, dit-il, les fils et les filles prophétiseront, et les jeunes hommes auront des visions, et les vieillards auront des rêves. La merveille de ceci n'est pas que nous allons tous prophétiser ou que nous allons tous avoir pour avoir des visions. L'idée est la même que dans le livre de Jérémie. Le peuple de Dieu va avoir une connaissance extraordinaire de Dieu. Que chacun d'entre nous, pas seulement le prédicateur, pas seulement l'évangéliste, pas seulement l'implanteur d'église, mais chaque enfant de Dieu, serait doté du Saint-Esprit et que chaque enfant de Dieu comprendrait les grandes choses de Dieu. Et nous combinons cela avec Actes 2 et Actes 1 à 8, non seulement ils auraient une grande connaissance de Dieu, mais ils auraient également la puissance du Saint-Esprit pour vivre cette connaissance. Joël parlant de vision, de rêve et de toutes ces choses, n'est que sa façon de dire que même si ces choses se sont produites de manière surnaturelle à la Pentecôte, et parfois dans l'Église primitive. Ce n'est pas son idée. ce n'est pas ce qui l'enthousiasme. Il est enthousiasmé par le fait que, pendant toutes les années de l'Église, le peuple de Dieu sera un peuple surnaturel. Ils seraient habités par un Dieu surnaturel. Et ils auraient la loi écrite dans leur cœur. Et ils le connaîtraient et auraient la capacité de le connaître de plus en plus. En fait, leur capacité à le connaître ne serait limitée que par leur désir de le chercher. Et ils seraient remplis de l'Esprit de Dieu pour vivre ses vérités. C'est ce qu'il nous enseigne. Ainsi, cette prophétie de Joël est simplement l'une des nombreuses promesses de la Nouvelle Alliance selon lesquelles nous serions ce genre de personnes. Maintenant, cher ami, j'ai dû tellement condenser que c'est déroutant même pour moi d'essayer de présenter tout cela devant vous. Maintenant, je veux vous poser une question. Est-ce une réalité dans votre vie? Grandissez-vous dans la connaissance de Dieu? Apprendre des choses extraordinaires sur lui, auprès de lui, sur sa volonté. Laissez-moi vous poser une autre question, qui est la plus importante? Avez-vous un sentiment de la puissance du Saint-Esprit? Vous décririez-vous d'une manière ou d'une autre comme étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Vous décririez-vous comme porté, habilité, autorisé par le Saint-Esprit? N'est-ce pas la plus grande plainte que j'entends de la part de gens ayant une très bonne théologie, c'est simplement que j'ai l'impression d'avoir si peu de pouvoir? La mère de l'école à la maison qui vient littéralement de se dépenser a l'impression qu'elle ne peut pas continuer. Le prédicateur qui est si fatigué qu'il semble que tout dans son ministère n'est que des rouages et des roues. Juste le meulage d'une machine. Aucun sentiment de vie, de puissance, de déploiement des voiles, de l'Esprit de Dieu remplissant ses voiles et nous portant. Voici certaines choses que je souhaite partager avec vous, et encore une fois, je m'excuse d'avoir à parler de ces choses si brièvement et de manière si incomplète. Au moment de la conversion, une personne est régénérée et habitée par le Saint-Esprit. Régénérée et habitée par le Saint-Esprit. Cependant, notre plénitude en Christ n'est pas un motif de passivité. Cela n'indique pas non plus que ce que nous avons en Christ n'a pas besoin d'être approprié. Vous avez été habité par le Saint-Esprit. La connaissance de Dieu vous a été donnée. Mais ne voulez-vous pas davantage de connaissance de Dieu? Et dans la même question, ne désirez-vous pas des pouvoirs de plus en plus grands du Saint-Esprit? Je veux que vous écoutiez l'apôtre Paul. Il dit, « Maintenant, sortez la poésie. Écoutez simplement la vérité. C'est la vérité propositionnelle. C'est aussi dans ce but que je travaille. Est-ce que cela vous décrit? Travaillez comme mère scolarisée à la maison, travaillez comme père scolarisé à la maison, travaillez dans votre travail, travaillez dans votre ministère. Mais regardez ce qu'il dit. C'est aussi dans ce but que je travaille, luttant selon sa puissance, qui agit puissamment en moi. Ce genre de langage nous est-il étranger? Vraiment? Cela vous est-il étranger? Écoutez 1 Corinthiens 2.4, mon message et ma prédication n'étaient pas des paroles de sagesse convaincante, mais une démonstration, quelque chose que vous pouviez réellement voir, une démonstration d'esprit et de puissance. Ne prenez pas ces paroles et transformez-les en un cliché dénué de sens. Écoutez ce qu'il dit. Paul a dit qu'il travaillait, mais il reconnaissait qu'il travaillait avec une puissance qui agissait puissamment en lui. Et je crois que cette puissance du Saint-Esprit agissant en lui parfois, le laisserait presque épuisé. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Si vous vous souvenez, Jésus marche. Quelqu'un l'a touché. Il remarqua immédiatement que la vertu sortait de lui. Cette puissance est sortie de lui. Lorsqu'un homme rempli du Saint-Esprit exerce son ministère avec la puissance du Saint-Esprit, cela peut même avoir des conséquences néfastes sur son corps. Et c'est une des raisons pour lesquelles les manifestations ne sont pas seulement continues. Même un peuple de Dieu, lorsqu'un véritable et authentique réveil de l'Esprit éclate, ne dure pas éternellement parce que même l'Église ne peut pas soutenir une telle puissance. Cela épuiserait les gens. Que lorsqu'un homme exerce son ministère dans la puissance du Saint-Esprit, il sait que la vertu sort de lui et qu'il peut à peine marcher lorsqu'il descend de la chair. Nous parlons du surnaturel que nous il ne faut pas nier. Et que nous avons besoin de cette connaissance. Il faut se l'approprier. Nous avons besoin de manifestations de plus en plus grandes de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. C'est indéniable. Maintenant, quand quelqu'un me l'a demandé, et je l'ai apporté ici aujourd'hui parce que je savais que je ne pourrais enseigner que quelques minutes sur ce sujet, quand quelqu'un m'a demandé, « Frère Paul, que pensez-vous du Saint-Esprit, de l'idée de la Pentecôte, du baptême du Saint-Esprit et de tout le reste ?» Je dois dire que, mieux que quiconque sur cette planète, et une personne auprès de laquelle j'ai beaucoup appris sur le Saint-Esprit, résume ma vision du Saint-Esprit, c'est Yann Murray, l'historien de l'Église Yann Murray. La Pentecôte aujourd'hui? La base biblique pour comprendre le réveil. Je recommande vivement ce livre. Je le recommande à tous les étudiants, je le recommande à tout le monde. Ce livre. Le livre qui le précède, Revival and Revivalism, souligne tous les faux incendies en Amérique. Mais ce livre revient avec un baume curatif et nous dit qu'il s'agit là de la vraie spiritualité. Maintenant, je veux lire beaucoup de choses de ce livre aussi vite que possible. Je veux que vous entendiez maintenant, voici Yann Murray. Ok, ce n'est pas Paul Washing. Il s'agit de Yann Murray, probablement l'historien de l'Église le plus respecté aujourd'hui. Maintenant, écoutez ce qu'il dit à propos de son livre. J'ai cherché à argumenter. Maintenant écoutez, laissant de côté la question des dons miraculeux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème. J'ai la parole de Dieu. Je m'en fiche de vous prophétiser quelque chose que j'ai vu dans une vision. Je vous ai prêché la parole de Dieu. Je ne suis pas enthousiasmé par de petites choses comme ça. Je suis enthousiasmé par le plein conseil de Dieu et je veux pouvoir le vivre et le proclamer dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai cherché à argumenter, laissant de côté la question des dons miraculeux, que nous ne pouvons pas supposer que tout ce qui a marqué l'Église à la Pentecôte fait partie permanente de l'expérience chrétienne. Le haut degré d'audace, de joie et d'assurance, qui caractérisait alors et plus tard les disciples, ne se retrouve pas chez chaque personne régénérée aujourd'hui. Il ne dit pas que ce n'est pas grave. Il le fait juste remarquer. Vous regardez cette Église primitive, même en dehors des dons miraculeux, vous regardez simplement cette Église primitive et vous la comparez à l'Église d'aujourd'hui. Voyez-vous des différences? Vous regardez Pierre et certains de ses hommes avec l'audace de certains des plus petits chrétiens de l'histoire qui se sont opposés au monde. Et vous vous demandez, est-ce que cette puissance qu'ils ont, est-ce que cela se voit en moi? Les ministres chrétiens peuvent manquer grandement de l'autorité qui caractérisait les prédicateurs de l'Église primitive. Vous souvenez-vous de ce qu'ils ont dit à propos de Jésus? Ils enseignaient avec une grande autorité, non pas en tant que scribes, qui citaient simplement d'autres scribes. Il y avait un sentiment d'autorité. Il y a aujourd'hui de nombreux ministres qui peuvent vous donner un sermon parfaitement exégété, et il ne semble y avoir aucune autorité ni aucun pouvoir derrière cela. Il a dit, mais comment expliquer cela? Comment expliquer cette différence entre l'Église primitive et nous si ce qui est arrivé à l'Église à la Pentecôte arrive maintenant à chaque personne lorsqu'elle devient chrétienne? En raison de l'hérésie qui nous entoure aujourd'hui, nous disons à presque tous nos convertis, « Ok, vous avez été convertis, le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes complet en Christ, vous n'avez pas besoin de rechercher une seconde bénédiction ou quelque chose pour vous rendre plus spirituel. » Tout cela est vrai. Mais la question est, que doivent-ils faire? Il est vrai que nous ne devrions pas rechercher des dons miraculeux, nous ne devrions pas rechercher des langues, nous ne devrions pas rechercher des secondes bénédictions qui nous distinguent des autres croyants. Mais laissez-moi vous demander, que disons-nous aux nouveaux convertis de faire? Vivre dans le même manque de pouvoir dont la plupart d'entre nous font preuve? Continuons. Être rempli du Saint-Esprit peut-il vraiment être la même chose que simplement être chrétien? N'est-il pas évident qu'un individu peut véritablement appartenir au Christ tout en ayant peu d'assurance? Il dit, n'est-ce pas vrai? N'y a-t-il pas des gens qui appartiennent véritablement au Christ et pourtant ont peu d'assurance? Et qu'un prédicateur puisse être orthodoxe et manquer d'onction, manquer de la puissance de l'Esprit? Il n'est guère convaincant de répondre que de tels chrétiens possédaient la même plénitude pentecôtiste lors de la régénération, mais qu'ils l'ont perdue plus tard. Après une longue expérience pastorale, Charles Vaughan arriva à une conclusion plus probable. Il dit ceci, beaucoup d'enfants de Dieu véritablement régénérés et douloureusement sanctifiés n'atteignent jamais, du moins apparemment, la douce bénédiction de l'onction de l'Esprit. En d'autres termes, nous pouvons être régénérés sans pour autant ressembler aux prédicateurs et aux chrétiens remplis de l'Esprit de l'ère apostolique. Et c'est la vérité. Ça ne peut être nié. Nous pouvons voir des gens orthodoxes, nous pouvons voir des gens qui sont même très moraux, même des gens très, très dévoués, mais l'idée de la puissance du Saint-Esprit, de l'audace, de l'onction, de l'autorité, cela fait défaut. Maintenant, je veux que nous lisions juste un instant Luc chapitre 11. Et encore une fois, je sais que j'en arrive là. Luc chapitre 11, verset 13. Jésus parlant, donnant des instructions sur la prière, il dit au verset 13, « Si donc vous, étant méchants, savez donner de bons dons à vos enfants, à combien plus forte raison vos célestes ?» Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Maintenant, vous dites, « Eh bien, frère Paul, je pensais que vous veniez de dire qu'à la conversion, nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, habités par le Saint-Esprit et complets en Christ. Oui. Alors pourquoi ce texte dit-il que nous devrions prier pour que Dieu nous donne le Saint-Esprit? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, au lieu de me faire confiance sur le sujet, je veux vous lire certains des puritains, certains des premiers baptistes, ce qu'ils ont dit. George Smeaton sur la doctrine du Saint-Esprit, l'un des livres les plus respectés sur la doctrine du Saint-Esprit. Il dit qu'aucune théorie plus malveillante et trompeuse ne pourrait être avancée, ni plus déshonorante pour le Saint-Esprit que le principe selon lequel, parce que l'Esprit a été déversé à la Pentecôte, l'Église n'a pas besoin, ni aucun mandat, de prier pour obtenir des infusions de l'Esprit. De Dieu. Au contraire, plus l'Église demande l'Esprit et attend ses communications, plus elle reçoit. Et toute l'idée ici est la suivante, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est une personne. Je n'ai pas reçu une partie de lui. Mais le cri du croyant est pour des remplissages de plus en plus grands, des manifestations de plus en plus grandes, la puissance du Saint-Esprit pour relever les défis de notre vie quotidienne et de notre ministère. Combien d'entre vous, les mères qui font l'école à la maison, combien d'entre vous, les prédicateurs, confrontés à l'épuisement et à la fatigue, voyant la tâche à accomplir et presque effrayés par celle-ci, sont allés crier « Remplis-moi du Saint-Esprit ». Pas seulement avec de la persévérance, pas seulement avec la capacité de rectifier les engrenages et de traverser ce désert. Non. Pleurez. Déverse ton esprit en moi. Des infusions de plus en plus grandes, des manifestations de plus en plus grandes. Accomplissez les promesses de votre alliance. Que l'esprit soit comme une rivière. Écoutez Jonathan Edwards. Les Écritures non seulement nous dirigent et nous encouragent en général à prier pour le Saint-Esprit par-dessus tout, mais c'est la volonté expressément révélée de Dieu que son Église soit très en prière pour cette glorieuse effusion de l'Esprit qui doit se sera dans les derniers jours, et ce qui en sera accompli. Thomas Boston, le célèbre puritain. Par conséquent, respirez, haletez et aspirez à l'Esprit du Christ. Est-ce que cela vous décrit? Est-ce que cela décrivait votre Église? Maintenant, écoutez Spurgeon et l'Esprit de Spurgeon. Écoutez-le. Il a dit, n'avons-nous pas entendu il y a quelque temps de la part de certains frères sages que nous ne devions jamais prier pour le Saint-Esprit? Je pense avoir entendu dire souvent que nous avons le Saint-Esprit, et par conséquent nous ne devons pas prier pour lui. Comme cette autre déclaration de certains hommes de la même confrérie selon laquelle nous avons le pardon du péché et ne devons pas prier pour lui, tout comme nous l'avons fait. Il ne faut jamais prier pour ce que nous avons. Si nous avons la vie, dit Spurgeon, nous devons prier pour l'avoir plus abondamment. Si nous obtenons le pardon à un égard, nous devons prier pour que ce pardon soit pleinement ressenti. Et si nous avons le Saint-Esprit pour être vivifiés et sauvés, nous ne le lui demandons pas à ce titre, mais nous demandons sa puissance dans d'autres directions et sa grâce sous d'autres formes. Je ne vais pas devant Dieu maintenant pour dire, Seigneur, je suis un pécheur mort. Ravive-moi par ton esprit. Car j'ai confiance que je suis vivifié par son esprit. Mais étant vivifié par l'Esprit de Dieu, je crie maintenant, Seigneur, ne laisse pas la vie que tu m'as donnée décliner jusqu'à ce qu'elle devienne très faible, mais donne-moi de ton esprit, afin que la vie en moi devienne forte et puissante et puisse maîtriser toute la puissance de la mort dans mes membres, afin que je puisse faire ressortir la vigueur et l'énergie qui viennent de toi par l'Esprit. Ô vous qui avez l'Esprit, il parle à son Église, vous êtes les mêmes hommes qui prient pour que vous puissiez expérimenter davantage ces opérations incomparables et ces influences gracieuses, et que dans toute la sainteté bienveillante de son séjour intérieur, vous puissiez rechercher que de plus en plus que vous le connaissez, vous avez ceci comme encouragement, que Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Frères, écoutez John Owen, le technicien de tous les théologiens, peut-être le plus grand. C'est cela. Le travail quotidien des croyants. Si donc notre vie pour Dieu ou la joie de cette vie est considérée comme grande, en cela nous devons abonder, le demander au Père comme les enfants font du pain quotidien de leurs parents. Pour lui demander le Saint-Esprit. Il dit que c'est le travail quotidien du croyant. Laissez-moi vous demander, est-ce votre travail quotidien? Savez-vous que lorsque Spurgeon. La plupart des gens ne comprennent pas Spurgeon, ils attribuent tout de Spurgeon à son grand esprit. Non? Mémoire photographique? Absolument pas. Savez-vous que plusieurs fois Spurgeon, la nuit précédente, n'avait toujours pas de sermon et vomissait, étant si nerveux, jetant d'innombrables sermons dans la poubelle, et n'avoir rien quand il montait en chaire. Et quand il montait en chaire, c'était l'habitude de Spurgeon de prier de cette façon, « Je crois au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. » Ou quand vous arrivez à quelque chose dans votre vie, vous voyez simplement qu'un enfant a désobéi. « Seigneur, une plus grande effusion pour moi d'infusion de ta grâce, d'infusion de ta puissance dans ton esprit afin que je puisse gérer cela avec sagesse. Seigneur, je suis fatigué de la routine quotidienne. Séparez-vous un instant et allez crier pour de plus grandes mesures, des manifestations de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Concernant l'onction du Saint-Esprit, John Owen écrit, « C'est là que le devoir des croyants est de prier continuellement, de m'écouter, de prier continuellement pour son augmentation et la manifestation plus large de sa puissance en eux. » Oui, c'est leur devoir de travailler pour que leur prière en ce sens soit à la fois fervente et efficace. Vos prières pour de plus grandes dotations du Saint-Esprit sont-elles ferventes et efficaces? Car plus les enseignements de cette onction sont expressifs et éminents en eux, plus leur onction est fraîche et abondante. Et l'un de mes favoris, Richard Sibbe, prenez un homme qui a les arts de l'esprit, et vous lui ferez défier la mort, le monde, Satan et toutes les tentations. Prenez un homme qui néglige de travailler pour augmenter ses arts par rapport au Saint-Esprit, et vous le rendrez faible. Mes frères et mes sœurs, il existe un tel héritage de l'esprit des vivants. Dieu qui est à vous, mais vous ne l'avez pas. Il y a le Saint-Esprit, il y en a au fur et à mesure que vous avancez tout au long de votre vie, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez chercher à ne pas offenser le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai parlé d'être prudent le premier jour. Que les hommes ne doivent pas seulement être passionnés, ils doivent être prudents. Que le Saint-Esprit en eux ne soit pas offensé par le péché, parce que c'est tout. La seule chose que vous pouvez faire est ce qui est fait par la puissance du Saint-Esprit, et l'offenser, c'est retrancher toute vie. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, cherchant constamment à obéir. Le Saint-Esprit, pour vous soumettre au Saint-Esprit, je veux que vous sachiez aussi quelque chose. Il y a des visites de Dieu. Ce n'est pas un langage charismatique. Il y a des visites de Dieu. Il y a des effusions de son esprit. Il est là vous donnant des onctions pour accomplir les ministères qu'il vous a donnés. Et la plupart des hommes ne recherchent jamais cela. Et ils se retrouvent à broyer ou à broyer à travers le désert comme si la vie chrétienne était une machine, ou simplement de la persévérance et rien de plus. Ils se retrouvent épuisés. Ils se sentent craintifs. Ils se retrouvent face à toutes ces choses, et ces choses ne peuvent être empêchées par une plus grande connaissance. Ils sont chassés une fois pour toutes par les effusions du Saint-Esprit. Et je sais qu'il existe de grands extrêmes et je sais qu'il y a des dangers, mais il y a de grands dangers de mort. Très mort et sans électricité. Les hommes parlent beaucoup aujourd'hui de la prédication. Les hommes parlent beaucoup de la prédication explicative au point qu'elle en devient presque une idole. Ils ont l'impression que s'ils ont correctement interprété le texte, ils ont prêché. Je veux que tu saches quelque chose. Je suis très fatigué des mots. Tant de mots. Tant de sermons. Où est le pouvoir? Où est la démonstration de puissance dans la conversion des âmes, dans le fait que les saints deviennent pieux? Dans mes jeunes années, je sortais dans les rues pour prêcher, terrifié, je me promenais dans les rues en voulant prêcher mais j'avais tellement peur de ma propre ombre, peur d'une petite servante, distribuant des tracts en secret. Rentrer à la maison, regarder le livre des actes, regarder ma propre vie. Où est le Seigneur Dieu d'Élie? Où est ce sens? Je ne veux pas être un garçon de Dieu. Je ne veux pas être ce petit garçon qui joue aux soldats, mais qui n'est pas vraiment impliqué dans une guerre, qui n'a pas de munitions, qui n'est rien. Et je sais que c'était une œuvre de grâce, mais Dieu m'a demandé de le chercher pendant des semaines, et parfois des heures par jour, comme un fou. Crier pour une chose, je veux juste te connaître. Et je veux avoir le sentiment de ta présence afin d'être comme Élie qui dit, le Dieu devant lequel je me tiens, que ta réalité serait plus grande pour moi que la réalité de n'importe quel homme physique ou de n'importe quelle montagne. Et Dieu répondit en déversant son esprit. Vous luttez toujours contre le péché? Oui. Toujours les mêmes pratiques de sanctification, de dévotion que je dois accomplir? Absolument. Mais sachant que l'esprit du Dieu vivant et l'effusion de l'esprit et l'onction de l'esprit, peu importe comment vous voulez l'appeler, peuvent élever un homme et le remplir de puissance afin qu'il devienne quelque chose qu'il n'était pas. Mais il faut ensuite faire preuve d'une grande intendance dans ce domaine. Léonard Ravenhill m'a un jour donné une piste, d'autres peuvent, mais vous ne pouvez pas. Cela signifiait que d'autres chrétiens peuvent avoir la liberté de faire ceci et cela, mais vous ne le pouvez pas. D'autres peuvent avoir la liberté de regarder, de faire et de voir des choses, mais vous ne le pouvez pas. Vous avez une intendance en vous et sur vous. J'en ai tellement marre d'entendre les gens dire, j'aurais aimé vivre à l'époque de l'Ancien Testament, où l'on pouvait vraiment connaître Dieu. La fin de toute chose est arrivée sur l'Église. Notre connaissance de Dieu surpasse de loin Moïse. Jean-Baptiste était plus grand que lui et nous sommes plus grands que Jean. L'Esprit vivant de Dieu qui habite en nous, nous donne le pouvoir de voir le miraculeux, que la parole de Dieu sort, et quand elle sort, Dieu parle au cœur des hommes et dit, que la lumière soit et la lumière est. Et il y a des conversions et il y a des œuvres de sanctification et il y a croire en Dieu dans la prière. Oh, ne néglige pas ton héritage. N'essayez pas d'accomplir ces tâches impossibles d'élever des familles pieuses, de servir dans une église, sans l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut venir si fortement sur un homme qu'il le déchire en deux. C'est votre héritage. Prions. Père, je prie pour que tout d'abord tu supprimes tout malentendu, toute tendance à l'extrême. Que nous vous chercherions. Et cherchons pour vous des pouvoirs de plus en plus grands, une dépendance à l'égard du Saint-Esprit. Que chaque faiblesse, chaque obstacle apparemment insurmontable nous amènerait à crier, ô Dieu, déverse ton esprit. Amen. Oins-moi pour cette tâche. Au nom de Jésus, Amen. Waouh! Je prie pour que nous soyons tous interpellés et convaincus par ces paroles. Qu'il en soit ainsi dans nos cœurs et dans nos vies. Pouvons-nous crier pour cela? Juste en considérant les paroles de M. Washer hier soir, même en ne perdant pas ce temps et en allant si vite comme autre chose. Avoir ce rôle est très difficile parce que vous pointez toujours vers la prochaine chose, mais je prie pour que Dieu rendrait cette réalité si vraie dans nos cœurs que nous considérerions ces choses tout au long de la journée et de notre vie à venir. La prochaine annonce est que nous sommes libérés pour une pause de 25 minutes et que nous nous retrouverons. Il y aura deux sessions principales, une ici à Spillemans, pas des sessions principales, mais des séances en petits groupes, mais les plus grandes séances, une ici à Spillemans et une à The Ark. Doug Phillips parlera ici de la contextualisation, et Jeff Pollard sera dans l'auditorium de l'Arc pour parler de tout à tous, nous nous retrouverons donc quelques minutes avant 11h pour ces messages. Merci.